Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une entreprise forte de notre territoire, distributeur de boissons du sud du département de la Loire et en Haute-Loire. Dirigeant de quatrième génération, il a su apporter tout son dynamisme et sa volonté de progrès, tout en gardant et valorisant les valeurs transgénérationnelles de cette entreprise familiale. Partons à la découverte de Philippe Souchon, dirigeant de la société Souchon Boissons Service.
Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Philippe, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de l'entreprise Souchon, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité. Qui vous aviez voulu inviter aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai invité mon père, Daniel Souchon. J'ai voulu inviter Daniel parce que quand on parle de l'entreprise, c'est Daniel aujourd'hui qui symbolise l'entreprise, qui symbolise le développement de l'entreprise lors de sa génération, je dirais. Et qui aussi témoigne du passage entre les générations. Parce qu'aujourd'hui, on est là, avec mes frères, on est la quatrième génération.
Vous parliez de l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise aujourd'hui ?
Ouais, donc aujourd'hui, Souchon Boissons Service, basé à Laricamari, c'est 75 personnes. Notre métier, c'est la distribution de boissons en café, hôtel, restaurant. Tout type de boissons. Bière principalement, 40% du business, après le vin, les spiritueux, les softs, les eaux, les cafés, les jus de fruits, les sirops. On a aussi un service technique, c'est important à dire, qui s'occupe de toute la partie tirage-pression, machine à café, matériel de bar, qui justement aide nos clients à commercialiser les produits qu'on leur vend. On a aussi donc une autre entreprise qu'on a repris il y a maintenant 5 ans sur la ville du Puy-en-Velay, la société Udivel, qui compte 25 personnes aujourd'hui.
Ok, c'est important d'être au plus proche de vos clients ?
C'est fondamental. Notre métier aujourd'hui, c'est notre service. On livre nos clients du lundi au vendredi dans des tournées de livraison optimisées. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. On est ouvert aussi le samedi matin et on a un principe d'astreinte le week-end, du samedi midi au dimanche midi, pour dépanner nos clients, soit en marchandises, soit techniquement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est au contact de nos clients 365 jours par an.
Ok. Est-ce que vous avez de la concurrence sur le marché ? Et si oui, comment vous arrivez à vous différencier ? C'est quoi vos atouts ?
Alors oui, bien sûr, il y a des concurrents qui peuvent être de différentes natures, soit des distributeurs comme nous, qui ont le même ADN, mais il peut y avoir aussi des magasins qu'on appelle des cash and carry, où là, les clients vont dans le magasin pour faire leurs courses, on va dire, mais c'est un magasin pour les professionnels. Il peut y avoir aussi des personnes qui puissent aussi vendre leurs produits en direct, ou des multicartes qui peuvent aussi promouvoir les produits. Nous, notre atout aujourd'hui, c'est vraiment la proximité avec le service au quotidien qu'on a dépeint avec le dépannage, c'est aussi le suivi par un commercial. C'est pas neutre, car le commercial est là pour répondre aux attentes des clients, écouter leurs besoins. On amène aussi un service d'un point de vue technique, avec la mise en place de matériel, principalement tirage pression et machine à café, parce que vous aurez beau avoir les meilleurs produits en fût ou dans un kilo de café, si derrière après le matériel est pas bien réglé et entretenu régulièrement, il y aura pas un bon rendu dans le verre ou dans la tasse du consommateur.
Très bien. C'est quoi vos actualités aujourd'hui, vos enjeux, sur quoi vous travaillez chez Souchon Boissons Service ?
Alors aujourd'hui, on travaille sur deux axes. Le premier, c'est la multiplication des produits qui vient un petit peu révolutionner notre métier. Aujourd'hui, on a franchi en 2022 la barre des 3000 références dans le dépôt. Donc c'est vraiment très important et ça amène beaucoup de complexité. Je pense que Daniel pourra expliquer, si tout à l'heure il parle un peu de l'histoire, je pense qu'avant on pouvait parler peut-être de 300 produits, il y a 30 ans. Donc de 300 à 3000, c'est plus tout à fait le même métier. Voilà, aujourd'hui le consommateur veut de plus en plus de diversité. On se doit d'amener ça à notre client, car le consommateur, quand il va en point de vente, qu'il va dans un café, hôtel, restaurant, il y va aussi pour découvrir, pour vivre de nouvelles expériences. Et tout ça, ça a des impacts chez nous. Ça a des impacts, le premier, en termes de stockage. Donc voilà, on a dû réorganiser nos espaces de stockage sur les deux dernières années. On a doublé notre plateforme extérieure aussi pour avoir plus de capacité. On est aussi obligé de modifier nos manières de réceptionner, d'approvisionner. Aujourd'hui, on a lancé la dématérialisation de tous ces process qui avant se faisaient par papier et aujourd'hui sont gérés avec des pads ou des tablettes. Ça, c'est mon grand frère Rémi qui s'occupe de toute cette partie logistique, technique, informatique et qui donc a mené à bien ses projets depuis maintenant 5-6 ans. Et l'autre pendant de cette multiplication des produits, donc en interne, je viens de l'évoquer, et puis après il y a en externe, comment on fait pour rapprocher les produits de nos clients. Et ça, là, pour le coup, donc c'est mon jeune frère Hugo qui a mis en place une application client qui permet à nos clients qui ont téléchargé l'application d'avoir le visuel des 3000 références sur leur smartphone avec la photo du produit, son prix, son descriptif. Et là où ça va même encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui, nos clients peuvent passer leur commande via l'application. Ils ont leur cadencier face à eux et ils peuvent passer leur commande, ce qui évite le nombre d'erreurs et voilà, qui amène plus de précision. Et aussi, on amène un meilleur service à notre client.
Ok, vous avez commencé à évoquer vos frères qui travaillent avec vous aujourd'hui. On y reviendra tout à l'heure. Et du coup, ça va nous emmener tout doucement vers vers votre jeunesse, votre enfance. Vous êtes né donc le 18 avril 1982 à Saint-Étienne.
Oui.
Comment s'est passée votre enfance? Dans quel cadre vous étiez?
Une enfance très heureuse, quoi. Vraiment, je le dis, je pense que voilà, j'ai le sourire quand je le dis parce que c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de vivre avec mes frères, avec mes parents. Avec ma grand-mère aussi, ce qui était quelque chose d'atypique. Elle a vécu 20 ans avec nous. Donc ça, c'est quand même une petite particularité. Et c'était génial. Hein. J'avais ma chambre à 3 mètres de la sienne. Et c'était une belle aventure. C'était d'autant plus atypique aussi qu'il y avait la famille paternelle qui était de l'autre côté de la cour. Donc voilà, il y avait un côté très famille chez nous. Mais voilà, qui m'en a laissé vraiment de bons souvenirs, des vacances aussi à la campagne, à Saint-Éan, un petit peu au-dessus de Saint-Étienne. Enfin, vraiment, ouais, non, une enfance très heureuse.
Et l'entente dans la famille entre frères?
Eh ben, une bonne entente aussi, hein, vraiment. Une entente, voilà, une entente vraiment de frères, de frangins qui sont capables de partager des choses. Voilà, la passion pour le jeu, par exemple. Hein, on adore jouer aux cartes. Donc voilà, on aime aussi les repas de famille, les sorties entre copains. Donc voilà, on a des choses qui nous rapprochent et dans le travail aussi, parce que c'est le côté atypique, c'est qu'aujourd'hui on est trois frères et on travaille tous les trois dans l'entreprise avec chacun des parcours différents, mais avec beaucoup de respect entre nous, beaucoup d'écoute et ça fonctionne très bien. Et je crois que le facteur clé de succès quand même, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas d'ego entre nous. Et en fait, on a la chance, mais aussi la capacité à s'écouter. Et comme je dis souvent, il n'y en a pas un qui a plus raison que les autres. Quand on est tous d'accord, c'est les décisions qui sont faciles à prendre. Quand c'est un petit peu plus difficile et qu'on n'a pas tous le même avis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des sujets, parfois, c'est l'un qui va... On va se rallier à l'avis de l'un, puis la fois d'après, on se ralliera à l'avis de l'autre. Et malgré tout, celui qui avait raison peut ajuster encore plus son jugement à la lumière des réflexions des trois autres. Et c'est aujourd'hui ce qui fait que ça fonctionne bien entre nous et qui, voilà, je le dis modestement, mais qui fait que je pense que ces dernières années, on a plutôt pris les bonnes décisions. Voilà, il faut que ça dure maintenant.
et un peu plus personnellement, pour revenir sur votre enfance, vous étiez qui comme fiston? Vous étiez qui comme élève?
Alors comme fiston, il faudra demander à mon père.
C'est ce qu'on fera tout de suite après, oui.
Comme élève, j'étais plutôt un élève studieux. J'étais plutôt un élève studieux, surtout quand j'étais petit. Après, l'adolescence passant par là, je pense que j'ai fait un lycée un peu moins sérieux, mais au final, après, voilà, j'ai quand même fait mes études. De compta, de gestion, mais sans forcément avoir comme idée de travailler dans l'entreprise familiale. Nos parents nous ont toujours dit, voilà, il y a l'entreprise, mais c'est pas une finalité en soi. L'important, c'est que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est l'important, c'est votre vie à vous. Vous faites, voilà, vous faites vos études, vous faites votre vie.
Daniel, on va vous laisser un peu la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, votre vision de cette époque-là où vos trois jeunes fils étaient à la maison et voilà qui est...
Alors, par rapport à son enfance en famille, avec sa grand-mère, enfin presque ses deux grand-mères, il y avait une grand-mère qui était la maman de Sylvie qui a vécu à la maison et mes parents à moi qui vivaient de l'autre côté de la cour, c'est-à-dire à 20 mètres. Voilà. Donc les deux grands-parents des deux côtés. Et je parlais de mimétisme parce que moi, ça a été pareil. Moi, mon enfance, je l'ai passée dans la maison où j'habite d'ailleurs aujourd'hui, qui était la maison de mon grand-père, et on vivait également tous ensemble. J'ai toujours vécu ma jeunesse avec mes grands-parents, et il y avait même également la sœur de maman, ma tante, qui a travaillé dans l'entreprise, qui était beaucoup plus petite à l'époque. Cette vie un peu en collectivité, avec un partage à la fois des idées, des responsabilités, de l'écoute de l'autre, dans la mesure où on vivait nombreux. Chez moi, on était 7. Tous les jours, matin, midi et soir, 7. Voilà. Et c'est peut-être inconsciemment ce qui a fait que, eh bien, on a développé chez nous cette capacité à dialoguer. Par rapport à mes enfants, j'ai de la chance parce que les trois ont été quand même plutôt studieux. Alors j'étais un père un peu sévère. Faudra demander aux enfants, mais voilà, j'aime bien quand il y a des règles. Voilà.
Et si elles peuvent être respectées, c'est encore mieux.
Et voilà. Mais j'ai pas eu trop de peine à les faire respecter. On n'a jamais eu de conflit. Je me souviens pas vraiment d'avoir eu des difficultés quelconques avec les enfants, même au moment de l'adolescence. Et aujourd'hui encore, enfin, moi, en tant que père, j'ai une chance extraordinaire d'avoir eu, enfin, ces partages avec mes enfants. Et chaque jour qui passe, je me le redis en permanence. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que je continue avec eux et que je peux pas m'arrêter parce qu'en fait, cette histoire, elle dure depuis des décennies, quoi. C'est un bonheur chaque jour, quoi. La semaine dernière, on est parti en convention 4 jours, tous les 4. C'est la plus belle semaine de mon année, quoi.
Philippe, pour revenir à votre parcours, donc après votre enfance, vous avez parlé du lycée tout à l'heure. Quel est votre parcours universitaire ou d'enseignement supérieur ?
J'ai fait 2 ans à l'IUT de Saint-Étienne, un IUT gestion des entreprises et des administrations. Après une maîtrise de compta finance et après un master de contrôle de gestion à la fac de Saint-Étienne.
Et par rapport à votre aventure chez Souchon Boisson Service, vos premières missions réelles en tant qu'employé commencent à 16 ans.
Oui,
c'est
alors
ça.
Oui,
on file un coup de main.
Voilà, exactement. Job d'été, hein. Voilà, job d'été, préparation de commandes, partir aussi en doublure avec un chauffeur si besoin. 18 ans, c'était quand même c'était un peu la consécration, parce que quand on a 18 ans, qu'on peut prendre un camion, parce qu'en fait, on a 2 types de camions, on a des poids lourds, où là, il faut un permis spécial, mais que je n'ai pas, mais avec le permis voiture, le permis VL, on a des camions qui font 3,5 tonnes et qu'on peut conduire avec un permis voiture. Et voilà, et je me souviens de mes premières livraisons, voilà, et la première fois tout seul dans le camion, voilà, à livrer, c'était un peu la fierté, quoi. C'était voilà, de dire, voilà, je peux le faire moi-même. Et donc voilà, donc ça a été ça pendant de nombreux étés. Après, dans la mesure où j'ai fait des études de compta, j'ai aussi passé quelques étés en facturation et en comptabilité. Et après, j'ai vraiment rejoint l'entreprise, là pour le coup à plein temps à la fin de mes études. Alors c'est le hasard de la vie, hein. J'aurais dû normalement faire mon stage de fin d'études de 6 mois en 5e année potentiellement ailleurs pour découvrir, sauf que à cette période-là, c'est le moment où l'entreprise a investi le dépôt dans lequel elle est aujourd'hui, qui permettait à deux entreprises qui étaient à deux sites qui étaient à 20 km l'un de l'autre de n'en faire plus qu'un. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une période, je pense, pas simple pour mon père, hein, qui avait repris une entreprise importante en 2002. On était 3 ans après, en 2005. Il m'a à la fois proposé parce qu'il a vu que j'avais peut-être pas de projet défini. Et d'un autre côté, moi, mon projet de me dire, je peux aider mon père pendant un moment, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai aidé au début pour l'intégration du nouveau bâtiment, la refonte des tournées de livraison, parce que donc de deux sites, on faisait tout partir d'un seul site. Donc, il a fallu refondre toutes les tournées de livraison. C'était un travail conséquent. Je suis rentré par cette porte-là. Et au final, après, je suis jamais
reparti.
Vous quitterez
plus l'entreprise.
Voilà, exactement.
Vous en prenez la direction en décembre 2013.
Oui.
Comment ça se passe toutes ces années? Parce qu'il a fallu 8 ans pour en arriver là.
Ça s'est vraiment fait petit à petit. C'était passionnant parce qu'au final, j'ai été beaucoup en contact avec mon père, justement. D'un point de vue vraiment personnel, ça n'a pas toujours été simple au début pour moi. Mais vraiment, d'un point de vue, à l'intérieur de moi-même, sur la partie un peu légitimité, fils à papa, fils du patron, c'était des étiquettes dont j'ai mis du temps à me défaire.
Cette image vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des clients,
vis-à-vis de tout le monde.
Tout le monde. Vous-même peut-être?
Certainement. Ouais. Oui, non, mais vraiment, vis-à-vis en premier lieu des équipes, des salariés, ensuite des clients, ensuite de mes amis et ensuite de moi-même, je pense. Et puis voilà, le temps faisant, c'est passé petit à petit.
Et vous, Daniel, de votre côté, toute cette période-là, avant que Philippe arrive à la direction, et peut-être aussi au début de la prise, entre guillemets, officielle de fonction, dans quel état d'esprit vous êtes, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, à vocation à transmettre, et quelle vision vous aviez, justement, de l'aventure avec vos fils, à ce moment-là?
Moi, je ne pensais pas que mes enfants allaient prendre ma suite, parce que le modèle économique de l'instant allait plutôt à l'intégration. Ce qui fait que, j'aurais fini par vendre l'ensemble de mes parts à Cronenbourg. Sauf que dans la vie, il n'y a jamais rien d'écrit. Et les brasseurs qui savent maîtriser les process de production ne savent pas maîtriser les process de distribution. Donc, ils ont fait machine arrière. Et c'est pour ça que, du coup, à un moment, quand j'ai vu que Philippe, qui travaillait depuis 2-3 ans avec moi, était capable de prendre ma place, et mieux que ça, je lui ai proposé de dire, on reprend les parts qui avaient été à l'époque prises par Cronenbourg, et si tu veux, on fait le parcours ensemble. Et donc, quand j'ai proposé ça à Philippe, Philippe me dit, ça serait bien, je voudrais bien, parce qu'on s'entendait bien et on s'entend toujours bien. Mais il me dit, j'aimerais bien que mon frère, son frère aîné, vient travailler avec moi. Et Rémi, lui, est ingénieur Enise et il travaillait dans une boîte d'aéronautique à Brive-la-Gaillarde. Et on lui a proposé, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'éventuellement tu voudrais pas revenir à Saint-Étienne? Et puis, on bosse tous ensemble. Voilà. Alors à l'époque, on n'en avait pas parlé à Hugo parce qu'il était beaucoup trop jeune. Il avait 15-16 ans à l'époque. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé par rapport à cette intégration. Et elle s'est faite, en fait, assez naturellement. Et j'ai souvent tendance à dire qu'en fait, dans la vie, il n'y a rien d'écrit. La preuve, chez nous, c'était vraiment le cas.
Est-ce que vous aviez des appréhensions, malgré tout, comme le disait Philippe tout à l'heure, par rapport aux collaborateurs, par exemple aux équipes, de venir installer vos fils? Enfin, justement, je fais exprès d'utiliser cette mauvaise expression, d'installer son fils, mais est-ce que vous n'aviez pas peur de ça? Comment ça s'est passé? Il y a eu besoin de beaucoup de communication, beaucoup d'éducation, ou finalement, ça s'est fait assez naturellement? Peut-être parce que c'est dans l'ADN de l'entreprise aussi.
Oui. Alors, moi, j'étais pas inquiet par rapport à la façon dont Philippe pourrait être accepté par les salariés. Ce qui m'inquiétait plus, et à un moment je leur ai dit, je voudrais pas vous faire un cadeau empoisonné. C'était plus l'évolution du marché qui pouvait un petit peu m'inquiéter. Par rapport à la capacité à Philippe de diriger l'entreprise, j'étais pas inquiet parce que je sais comment il fonctionne. Moi qui faisais que j'étais vraiment confiant. Là vraiment, je me suis jamais posé de questions par rapport à la capacité à Philippe à diriger l'entreprise.
Philippe, pour revenir sur votre parcours, donc depuis décembre 2013, ça va faire une dizaine d'années, vous êtes qui en tant que dirigeant? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi que vous voulez véhiculer?
Alors, la première chose qu'on dit au niveau des équipes, enfin de l'entreprise, c'est la pérennité de l'entreprise, le maintien dans l'emploi des équipes. Ça, c'est vraiment des choses importantes pour nous. Et avec, au cœur de notre projet, bien sûr nos équipes, mais aussi nos clients, avec ce service qui nous est chevillé au corps. Après, au niveau un peu plus des valeurs, j'en dirais deux. c'est bon, bah, le travail, hein, parce que malgré tout, c'est la première chose.
C'est bien de le rappeler aussi.
Bien sûr. Et la deuxième, c'est le respect. Le respect qui est la condition nécessaire pour le bien vivre ensemble. On parle beaucoup de l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, voilà. Nous, on considère que la vie pro peut aussi être un moyen de s'épanouir, et le fait d'être bien dans son job, c'est quelque chose d'important pour nous. Et aussi parce qu'on pense, parce que tout est lié, que mieux nos équipes se sentent, et mieux nos clients vont être servis. Et mieux nos clients aussi vont ressentir que le rapport qu'on a aux équipes, que le rapport que les équipes ont avec l'entreprise, fait qu'ils vont se sentir en confiance. D'ailleurs, je donne un chiffre, hein, qui est très important. Sur l'ensemble des 100 personnes sur les deux entreprises, dans le 42 et le 43, on a 15 ans d'ancienneté moyenne de nos équipes. Et ça, cette fidélité des équipes à l'entreprise, c'est très important, bien sûr pour nous, parce que c'est un indicateur social important, et aussi vis-à-vis de nos clients, dans la mesure où les clients ont souvent l'habitude d'avoir le même interlocuteur, le même commercial, le même chauffeur-livreur, le même technicien, la même personne au téléphone, et ça amène de la confiance et des relations qui s'inscrivent dans la durée.
Pour traverser votre parcours jusque-là, est-ce que vous avez des choses qui vous ont inspiré particulièrement, des personnages célèbres, historiques, des personnages de films, des mentors dans la vie qui vous ont aidé, qui...
Pas vraiment. Alors je vais citer mon père pour le coup, parce qu'au final, s'il y avait peut-être une personne à laquelle je pourrais penser à ce moment-là, c'est forcément mon père en fait. Pas une personne célèbre, enfin pas tant que ça. on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et ça, c'est fondamental. Allusion au cinéma, je crois que dans tous les films, en tout cas dans beaucoup de films, le ressort qui amène les plus grands drames, c'est les non-dits et le mensonge. C'est toujours comme ça. Et le fait d'essayer, parce que c'est pas toujours simple et la vie est compliquée, de toujours essayer d'être le plus droit, le plus transparent possible, en tout cas le plus dans le respect possible, ça permet quand même de faire en sorte que la barque avance du mieux possible.
Avant de parler de l'avenir, Daniel, est-ce que vous pouvez nous faire une petite rétrospective des entreprises, de l'histoire, de cette belle histoire?
Cette belle histoire, elle a commencé en 1922 avec mon grand-père qui est né à Bozac. L'aîné d'une famille de paysans qui vivait avec 3 vaches, donc c'est-à-dire qu'il vivait pas. Et quand il est revenu de l'armée, il a pris son baluchon et il est descendu travailler à l'usine, la première ville quand on descend de la Haute-Loire, c'est Firminy. Et donc il travaillait à l'époque chez Holzer, c'était l'ancêtre de Creuse-Loire. Et en plus, il travaillait chez un limonadier. Il faisait des heures, qui était âgé, à qui il a racheté son fonds en 1922 avec, à l'époque, ce qu'on appelait des billets de fonds, hein, parce que c'était pas les banques qui prêtaient, c'était le vendeur qui prêtait à l'acquéreur. Voilà. Et mon grand-père a eu 2 filles, dont maman et ma tante, donc qui s'est jamais mariée, qui a toujours vécu à la maison. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, chez nous on vivait à 7. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, ma sœur et moi, et voilà, on avait une place immuable autour de la table, ma grand-mère qui faisait à manger pour tout le monde, et c'est la maison où je suis né, et c'est la maison où j'habite encore aujourd'hui. La deuxième génération, c'était mon père, qui était en fait le gendre, c'était le gendre, le mari de maman, qui venait de la Haute-Loire, qui était boulanger de formation. Maman voulant pas habiter en Haute-Loire, mon père pensait faire boulanger à Firminy. Mes parents sont mariés en janvier 1952, est arrivé le mois d'avril, mai, juin, c'est le printemps. Un boulanger, ça travaille la nuit, ça dort le matin, ça a du temps l'après-midi. Les après-midi, avec le printemps, mon père a aidé son beau-père, mon grand-père, et ça lui a plu. Mon grand-père était tout heureux de voir son gendre prendre sa suite, et ils se sont entendus comme père et fils. quand on est gamin, qu'on vit tous ensemble, ça paraît anodin, mais après avec le recul, j'ai jamais vu mon père et mon grand-père se disputer une seule fois, alors qu'on vivait tous ensemble tout le temps. Avec le recul, je me dis que c'était drôlement bien, et c'était pas si naturel que ça. Moi, j'ai fait quelques études, et personne pensait que j'allais reprendre l'affaire de mes parents, qui étaient toutes petites, hein. Il y avait 4-5 personnes. Ben, quand j'ai fini mes études, j'ai repris un camion, et ben voilà, j'ai vu les clients, livré les clients. Et puis après, à un moment, je me suis associé avec un de mes collègues. C'est pour ça que Saint-Étienne était un peu connu Rouchon-Souchon. Un peu difficile à dire, mais une fois qu'on l'avait bien intégré, ça restait dans les mémoires. Et donc voilà, on a fait ce développement-là à partir des années 90. La fusion a eu lieu en 1990. Après, il y a eu le départ d'un des associés, la rentrée au capital, c'est pour ça que j'avais parlé de Credembourg tout à l'heure, et puis le retournement de situation, donc la reprise par la famille de l'ensemble des parts avec la venue de Rémi, et puis il y a 5 ans, c'est le rachat d'un de nos confrères en Haute-Loire, la société Udivel au Puy, Union de Distribution du Velay, où il n'y avait pas de succession. Et en fait, la Loire et la Haute-Loire, c'est historiquement deux territoires très proches. La Haute-Loire ayant alimenté la Loire en main d'œuvre, et du coup, pour moi, c'était un juste retour aux sources. Et quand il a fallu racheter cette société, il y avait un peu de la concurrence, hein, parce qu'on avait des confrères du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Loire qui s'intéressaient à cette entreprise. Et moi, j'ai dit aux enfants, au-delà de l'aspect économique, il y a cet aspect sentimental de dire on est de la Haute-Loire, il faut qu'on remonte en Haute-Loire, ce sont nos origines. Et chaque fois que je monte sur notre dépôt du Puy, je pense à cette histoire, à nos origines en Haute-Loire. Et pour une petite anecdote, la boulangerie du col du Pertuis, c'était la boulangerie familiale du côté de mon père, et évidemment j'ai une pensée pour mon père et mon grand-père qui était boulanger au col du Pertuis.
Merci. Philippe, on vient de parler du passé. Tout à l'heure, on a parlé du présent. Et maintenant, on va parler du futur. Vous êtes jeune dirigeant. Comment vous envisagez l'avenir, que ce soit pour Souchon, mais aussi globalement le monde du travail? On est dans un monde en pleine mutation. On voit les gens qui changent, l'environnement qui change. Comment vous intégrez ça aujourd'hui? Qu'est-ce que vous y voyez comme signe?
Alors, le premier point, c'est au niveau écologique. On parle beaucoup des RSE aujourd'hui, responsabilité sociétale des entreprises. On a aujourd'hui, il faut le rappeler, la spécificité de notre métier, c'est que 60% des produits que nous vendons à nos clients sont des produits dans des emballages consignés, des fûts de bière ou alors dans du verre consigné qu'on récupère. Donc on descend la marchandise pleine dans les caves et on la remonte. On remonte les emballages qu'on renvoie après chez nos fournisseurs. Pour les emballages qui sont en verre perdu, on a un service de récupération du verre perdu qui nous permet là aussi d'être très vertueux, où on récupère les verres perdus dans des caisses qu'on stocke dans des bennes à verre sur le dépôt qui sont récupérés pour le recyclage. Le troisième point qu'on fait en mode RSE, on gère complètement nos déchets sur notre site, c'est-à-dire tous les cartons, les plastiques. On a acheté un outil qui s'appelle une presse à balles qui nous permet de faire des balles de carton et des balles de plastique qu'on peut après amener chez une personne qui va les retraiter. Un autre point sur la partie RSE, c'est la gestion optimisée de nos tournées de livraison. Ça, c'est fondamental car aujourd'hui, on est souvent un peu pointé du doigt parce qu'on a des poids lourds qui rentrent dans les centres-villes. Et aujourd'hui, les poids lourds qui rentrent dans les centres-villes sont mal perçus, car souvent comme étant classés comme polluants. Aujourd'hui, il y a des nouvelles réglementations qui parlent de ZFE, de zone à faible émission. C'est le cas sur Saint-Étienne. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que quand un poids lourd part en livraison, par exemple dans le centre-ville de Saint-Étienne, avec 4 tonnes de marchandises, pour livrer en moyenne une quinzaine de clients, si ces 15 clients devaient par leurs propres moyens aller chercher leurs marchandises, chez nous ou ailleurs d'ailleurs, hein, avec un petit véhicule utilitaire, moi je pense qu'il vaut mieux un seul poids lourd que 15 véhicules légers. Voilà, c'est le premier point. Et le deuxième point, parce que malgré tout, on entend hein, qu'aujourd'hui, les émissions de CO2, il faut les limiter. Donc, on a pris un virage très important cet hiver où on a mis en place un nouveau carburant qui s'appelle le B100. C'est vraiment quelque chose de très novateur. Le B100, ça a été développé par une entreprise qui s'appelle Oléo 100. Et le B100, comparativement avec le gasoil qui est du B7, c'est 100% d'éléments naturels dans la constitution de ce carburant. C'est un carburant qui est fait à base de résidus de colza. C'est un carburant qui ne sera jamais en vente libre pour les particuliers, parce que ce carburant on ne pourrait pas en produire suffisamment pour alimenter tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est réservé à des professionnels, parce que donc justement, on a rentré une cuve dédiée avec ce fameux carburant sur notre site, parce que le résidu de colza est forcément une ressource finie, parce qu'il serait complètement absurde de produire du colza pour faire du carburant. D'un point de vue écologique, ce serait terrible. Mais aujourd'hui, le résidu de colza est transformé en carburant, et ce carburant a quand même des résultats assez exceptionnels, dans la mesure où, par rapport au carburant classique, au gasoil, c'est 60% d'émissions de CO2 en moins et 80% d'émissions de particules fines en moins. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même un carburant très vert. D'ailleurs, les véhicules qui roulent au B100 sont notés critère 1, donc qui est la meilleure note pour pouvoir justement accéder aux ZFE.
Daniel, vous avez beaucoup d'expérience du coup dans l'entreprise. Vous avez vu passer certainement beaucoup de générations aussi dans vos collaborateurs. Comment est-ce que vous avez vu évoluer le monde du management, un petit peu le monde en interne? Quels sont les signes que vous voyez, et pour vous, qu'est-ce que ça présage?
Alors, le monde du management en entreprise, il a fait comme le monde de l'éducation dans la famille. C'est à peu près le même schéma. Avant, c'était un ordre, on exécute. Et bien maintenant, c'est pas tout à fait pareil. C'est un ordre, mais on explique. Après tout, pourquoi pas? Jusqu'à un certain point. Moi, j'ai toujours eu un peu cette démarche d'explication. Donc, c'est pour ça que ça me choque pas tant que ça. Après, aujourd'hui, je pense qu'au-delà du management, je pense qu'il y a une relation au travail qui a beaucoup évolué. Alors, c'est certainement un autre sujet, un autre chapitre. L'actualité montre que c'est un sujet sensible. Et je pense qu'au-delà des retraites, le sujet qui se pose, c'est la relation au travail.
Philippe, par rapport à la relation au travail, justement, qu'évoque Daniel?
J'ai évoqué tout à l'heure notre objectif, qui est que les personnes puissent se sentir bien dans leur travail, dans leur job. Il n'y a pas une solution. C'est souvent un faisceau d'action qu'on peut mener pour que les personnes se sentent bien dans l'entreprise. Alors, bien sûr, il y a forcément une question de rémunération et aussi de redistribution. Je l'évoque, hein, c'est des choses qu'on a mis en place dans l'entreprise depuis plusieurs années maintenant, participation, intéressement, dans la mesure où c'est souvent un peu le discours qu'on tient aux équipes, hein, on travaille ensemble, donc après on gagne ensemble ou on perd ensemble, hein, on l'a aussi connu malgré tout avec les deux dernières années de Covid qu'on a vécues, qui ont été voilà cataclysmiques, mais malgré tout voilà on est quand même arrivé à s'en sortir. Voilà, donc il y a une partie rémunération, puis après il y a une partie vraiment confiance, une partie donner de la responsabilité, donner un cap, donner de l'autonomie, voilà, donner du sens aussi. Aujourd'hui, c'est des notions qui existent beaucoup. On pense qu'à travers les notions de service, d'éco-responsabilité, quand j'ai évoqué quand même tout ce qu'on essaye de mettre en place, on pense que nos équipes sont sensibles à ce genre de choses. Après, on peut pas non plus nier qu'on a un métier particulier. Je pense à nos chauffeurs-livreurs principalement, hein. Il y a quand même des charges lourdes. Un fût, c'est 40-45 kilos. avec descente en cave. Donc c'est vrai que c'est quand même un service atypique, c'est des services de livraison assez rares, hein, descente en cave, on range les caves, quand je dis on range les caves, c'est-à-dire qu'on fait tourner les produits pour que les produits avec les dates les plus courtes, on les ramène devant pour mettre les dates les plus lointaines derrière. C'est forcément un métier où il y a aussi de la pénibilité, il faut la prendre en compte. On essaye là aussi de mettre en place une organisation tant personnelle, tant professionnelle, qui puisse aussi avoir des avantages. Nos chauffeurs-livreurs aujourd'hui travaillent majoritairement en 4 jours. Donc voilà, on essaye de jongler avec tout ça. On n'enlèvera jamais les parties pénibles et contraignantes du travail. Le travail ne peut être qu'une, est forcément à une part de contrainte. Mais malgré tout, si on y amène du sens et de la reconnaissance et de l'intérêt, on pense que ça peut fonctionner. On essaye en tout cas de.
Et c'est quelque chose dans lequel vous vous retrouvez ou vous pensez qu'on va trop loin aujourd'hui ?
C'est une question, comme en toute chose dans la vie, c'est une question d'équilibre. Et oui, si vous me demandez est-ce qu'on en demande trop aux entreprises, j'ai envie de dire que oui. Sur un point principalement, c'est que quelque part, on n'accepte plus le droit à l'erreur pour l'entreprise. On parle souvent on a une exigence de résultats et plus de moyens. Parfois, c'est difficile. On a beau mettre tous les moyens, le résultat, rien n'est parfait dans la vie. Donc, c'est pas simple. Et c'est vrai qu'on fait peser beaucoup de choses sur l'entreprise et aussi sur le chef d'entreprise. Parfois, ça pèse un peu. Comme tout n'est qu'équilibre, les plus grandes satisfactions passent par l'humain et les plus grandes déceptions passent également par l'humain.
Comme à chaque émission, il est temps maintenant de me faire offrir un petit cadeau, le petit porte-clés habituel. Voilà, merci beaucoup. Il s'agit d'un porte-clés de la marque Duvel. C'est intéressant, ça remplit deux fonctions, à la fois porte-clés et surtout, le plus intéressant, la fonction de décapsuleur. Je vous remercie énormément de votre accueil. Merci Daniel et merci Philippe.
Merci Julien.
C'était avec plaisir. Merci Julien.
Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.